France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Stéphane Bretwieser, l'Arsène Lupin des musées. C'est l'une des plus grosses affaires de vol d'art de tous les temps. De 1994 à 2001, le dénommé Stéphane Bretwieser dérobe en plein jour 239 œuvres d'art dans près de 170 musées de 7 pays européens, butin évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais d'argent, il n'en est pas question, figurez-vous. Non, Bretwieser est un esthète qui veut vivre entouré de beauté. Il n'a jamais revendu la moindre de ses œuvres volées. Il les expose chez lui, dans la petite chambre qu'il occupe chez sa mère, sous les toits en banlieue de Mulhouse. D'ailleurs, plutôt que voleur, il préfère se considérer comme un collectionneur aux méthodes d'acquisition, disons, peu orthodoxes. Et en tout point, Bretwieser vole des musées aux heures d'ouverture, dont sans violence ni effraction, avec une facilité déconcertante, jusqu'au faux pas qui vire au carnage artistique. Notre invité aujourd'hui, Vincent Noce, journaliste et critique d'art, auteur du livre intitulé « La collection égoïste, la folle aventure d'un voleur d'art en série et autres histoires édifiantes », livre publié en 2005 chez Jean-Claude Lattès. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Margot Pinel, rédaction en chef, Franck Cognard, chargé de programme, Rebecca de Nantes, réalisation, Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Mardi 27 novembre 2001. À la tombée du jour, un retraité d'Ernstein, une petite ville au sud de Strasbourg, se promène le long du canal du Rhône-Rhin. Il remarque alors une lueur dans l'eau, un objet brillant. Intrigué, il revient le lendemain et rapporte à terre un calice, apparemment en argent. Il repêche ensuite trois autres coupes et une dague. En honnête homme, le retraité prévient la gendarmerie de son incroyable découverte. La gendarmerie, qui arpente à son tour les eaux troubles du canal, comme en témoigne le commandant de la compagnie fluviale du Rhin, interrogé par France 3 Alsace.
Au moment de la découverte des objets, ils étaient pour la certaine et même pour la plupart visibles du bord. Et ensuite, n'ayant que 3 mètres de profondeur et 3 mètres de visibilité, pour ceux qui étaient immergés au milieu du canal, les plongeurs qui évoluaient les voyaient de suite.
Au total, 107 objets sont retrouvés au fond du canal. Des statuettes en bois, en ivoire ou en bronze, des armes médiévales, un casque de chevalier, des montres à gousset. Une véritable caverne d'Ali Baba. Un trésor entassé, faute de mieux, dans une cellule vide de la gendarmerie d'Ernstein. On appelle alors un antiquaire de Strasbourg, qui, disons-le tout net, reste bouche bée devant cette collection d'une grande valeur et plutôt en bon état. Apparemment, les objets n'ont pas séjourné longtemps au fond de l'eau. L'antiquaire fait une première estimation, 45 millions d'euros. Bon, la vérité se situe plutôt autour de 10, mais ça reste ce qu'on appelle une pêche miraculeuse. Le tout est transféré dans les réserves du musée Unterlinden de Colmar, où chaque pièce y est examinée, photographiée, mise sous scellé. Sa conservatrice en chef en présente quelques-unes aux caméras de France 3.
Donc vous avez ici un groupe tout à fait exceptionnel qui représente Adam et Ève, qui a été en fait exécuté en ivoire et que l'on peut dater très précisément de la première moitié du XVIe siècle. C'est vraisemblablement une facture allemande.
Alors, autre pièce dont il faut attirer l'attention, c'est cette très belle œuf d'autruche qui est montée donc en vermeil avec là aussi un très très beau travail d'orfèvre et que l'on date du XVIIe siècle.
Rapidement, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est alerté et découvre que la plupart de ces objets ont été volés au cours des dernières années. Première victime, des petits musées, en France et en Suisse principalement. Des vols sans effraction durant les heures de visite. Plusieurs plaintes évoquent un couple, homme et femme, élégant, plutôt jeune. Stéphane Bretwieser a 30 ans pile, et cela fait maintenant plus de 2 mois qu'il est détenu à Lucerne, en Suisse, à quelques 150 km de Mulhouse, où il habite. Le 20 novembre 2001, l'Alsacien, travailleur frontalier, est arrêté pour le vol d'un corps de chasse au musée Richard Wagner, un instrument du XVIe siècle d'une grande valeur. Stéphane Bretwieser reconnaît rapidement les faits et se confond en excuses. il dit avoir agi seul, sous le coup d'une impulsion, et jure, sur la Bible, n'avoir jamais rien volé d'autre. Voilà, l'affaire aurait pu s'arrêter là. Sauf que l'enquête révèle que Brett Wieser a déjà été condamné ici même à Lucerne il y a 4 ans pour le vol d'un tableau dans une galerie. Pris en flagrant délit, il a écopé de 8 mois de prison avec sursis. Ce récidiviste est alors placé en détention provisoire. Quelques jours plus tard, le mystérieux trésor du canal est découvert en Alsace et en janvier 2002, les photos de chaque objet repêché atterrissent sur le bureau du sergent suisse Roland Meyer, chargé d'enquête. En salle d'interrogatoire, face à Brett Wieser, Meyer sort une première photo, celle d'une médaille du XVIIe siècle, et, en bon enquêteur, il bluffe. « Nous savons que vous avez volé ça », lui dit-il. « Allez, dites-nous tout et on vous laissera sortir. » Classique. Profondément éprouvé par 2 mois de détention, Brett Wieser saisit la première perche qu'on lui tend. « Oui, c'est moi », avoue-t-il. La suite, il la raconte dans son livre « Confession d'un voleur d'art » paru en 2006.
Il a replongé la main dans le tiroir et en a retiré un paquet d'une bonne cinquantaine de photos. J'ai blêmi. Sur un nouveau cliché, j'ai vu une flûte, une pièce d'orfèvrerie et le corps enroulé 8 fois. Je ne comprenais plus. Ces 3 pièces-là, vous les avez volées où ? Je ne sais pas ce qui m'a pris. La lassitude, la forfanterie, le désir d'en finir et de dire la vérité ? J'ai répondu au policier suisse. Pièce de gauche à Copenhague, celle du milieu à Bruxelles, celle de droite à Bad Sachsenhausen en Allemagne. 3 pays sur la même photo, c'était le hasard. Je n'oublierai jamais le regard du policier à cet instant précis. Il s'attendait à tout sauf à ça. Et il s'est vraiment demandé à qui il avait affaire.
Lorsque le sergent Meyer montre la dernière photo de la pile, Stéphane Brett Wieser a déjà reconnu 107 vols, du jamais vu. Plus étonnant encore, il jure n'avoir jamais rien revendu. Non, il gardait jalousement son butin pour lui, caché dans la chambre qu'il occupe encore chez sa mère en banlieue de Mulhouse. En revanche, il ne sait pas comment tout ça a fini au fond du canal. En attendant de lever ce mystère, Brett Wieser est transféré dans la prison de Vevey. C'est là qu'il rencontre l'inspecteur Alexandre von der Mühl, spécialisé dans le trafic d'œuvres d'art. Ensemble, 6 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant près d'un mois, l'inspecteur et le voleur remontent le cours de 7 années de pillage et de quelques traumas familiaux. Stéphane Brett Wieser est né à Mulhouse en 1971. Brett Wieser est un nom connu dans la région, et pour cause. C'est celui de Robert, peintre paysagiste réputé. Stéphane est son arrière-petit-neveu. Il préférera dire plus tard qu'il est son petit-fils. Bon, la réalité, c'est une mère infirmière, un brin laxiste et un père de brin sévère, cadre commercial de son état. Stéphane grandit dans une belle demeure à Wittenheim, en Alsace, dans une famille aisée qui roule en berline, skie l'hiver, navigue l'été sur le lac Léman. Fils unique, Stéphane est un enfant solitaire, un élève médiocre et un collectionneur précoce. Timbres, cartes postales ou pièces de monnaie, quand il peut, il écume les musées et les revues d'archéologie. « Je me réfugie dans le passé », dit-il. Mais à l'âge de 19 ans, ce fragile équilibre s'effondre.
« Cette maison de Wittenheim que j'ai tellement aimée a été la maison du divorce. » Mon père a quitté notre domicile en emportant avec lui les meubles d'époque, les ivoires africains et la plupart des tableaux de Robert Brett Wieser. Tout ce dont il avait hérité de sa famille. Ma mère a dû remplacer le mobilier ancien par des meubles Ikea. C'était minable.
C'est le début de la dégringolade sociale. Stéphane coupe les ponts avec son père et déménage avec sa mère dans un petit pavillon à Eschenzbiller, en banlieue de Mulhouse. Il occupe le premier étage, 2 pièces sous les toits, où s'installe aussi sa nouvelle copine, Anne-Catherine, aide-soignante. Stéphane lui alterne petits boulots et périodes de chômage. Il trouve la vie mal faite, jure contre tous les ordres établis, les flics, la société, son père, et puis tout son argent passe en livres d'art. Il s'abonne aussi à la gazette de l'hôtel Drouot, l'hebdo des ventes aux enchères, qu'il écume jusqu'à l'obsession. Il n'a pas les moyens d'acheter ce qu'il admire, alors, il va s'y prendre autrement. Nous sommes au printemps 1994. Stéphane Bredwieser a 22 ans. Avec Anne-Catherine, il visite le musée local de Tann, un village alsacien. Dans l'une des salles, Bredwieser flash sur un pistolet à silex du XVIIIe siècle. Il lui rappelle celui qu'avait son père, exposé jadis dans la maison familiale. Il regarde l'objet longtemps, très longtemps, jusqu'à s'apercevoir que la vitrine n'a pas de verrou. Et puis autour, personne, ni visiteur, ni gardien. Alors,
c'était trop tentant. J'ai plongé la main et en un éclair, la plus belle pièce, un pistolet à silex, s'est retrouvée dans mon sac à dos. J'ai refermé la vitrine. Mon cœur battait fort. Anne-Catherine m'a souri. D'un pas que nous nous efforcions de ralentir, nous sommes sortis du musée. Je l'ignorais encore, mais ce vol facile, trop facile, au dernier étage du petit musée municipal de Tann, en Alsace, était le premier d'une longue série.
Pendant quelques jours, Bredwieser n'emmène pas large. Puis la peur se mue en soulagement avant l'euphorie. Ah, il ne se lasse pas d'observer son pistolet à silex. Parfois, il dort avec. Le pistolet d'un côté, Anne-Catherine de l'autre. Neuf mois plus tard, en février 95, l'apprenti voleur remet ça. Au château de Königsburg, en Alsace toujours. Dans la salle d'armes, il repère, accroché au mur, une arbalète tout droit sortie de ses rêves d'enfant. Là encore, pas de touristes, pas de gardien. Et hop, Bredwieser grimpe sur une chaise et décroche l'arme. Tout simplement, servez-vous. Le problème, c'est que l'arme est trop grande pour entrer dans son sac. Alors il la jette par la fenêtre. Il la récupérera en sortant. Le vol est remarqué le soir même. Et personne ne comprend ce qui a pu se passer. Comme le raconte, des années plus tard, Monique Fuchs, conservatrice en chef du château, interrogée au JT de France 3.
Comment ça s'est passé, je n'en sais rien. On a simplement constaté, un soir, peu avant la fermeture, qu'une arbalète manquait. Et c'était une arbalète qui était fixée à un endroit réputé inaccessible. Donc on était très étonnés. Après le constat du vol, on a imaginé plusieurs scénarios de circulation de l'œuvre, de procédé du voleur. Mais bien sûr, personne n'est venu ne se dénoncer ni ne nous a expliqué comment il avait réellement procédé.
L'arbalète du XVIIe siècle rejoint le pistolet à silex au premier étage du petit pavillon des Schönswiller. Bredwieser a troqué son lit Ikea contre un lit à baldaquin tendu de velours rouge. Aux côtés d'Anne-Catherine, ils se mettent à rêver d'un musée rien que pour eux, une chambre aux allures de salle du Louvre. Mais pour l'heure, les murs sont vides. Quelques semaines plus tard, le couple visite le château de Gruyère, en Suisse, là où on fait des fromages avec des trous. Ici, Stéphane Bredwieser sait prendre un petit portrait de femme daté du XVIIIe siècle. Il parle d'un véritable coup de foudre, à en perdre la raison. Alors il décroche le tableau, détord les clous du cadre et glisse la peinture sous sa veste. C'est son troisième vol, le premier tableau, le premier en Suisse, le début de l'engrenage. À partir de l'été 95 en effet, le rythme des vols s'accélère. Toujours accompagné d'Anne-Catherine, Bredwieser alterne entre la France et la Suisse et s'empare en un tour de main d'une icône religieuse, d'une hallebarde, d'une machette et d'un plat en faïence. Comme on fait ses courses ? Les affaires marchent bien. Et à force, le couple affine ses méthodes. Chacun s'est choisi par exemple une tenue de grande marque, chinée en friperie, censée les rendre moins suspects. Ils privilégient les petits musées, peu ou mal surveillés, qu'ils visitent de préférence à l'heure du déjeuner ou en fin de journée. Pour le reste, ça paraît un jeu d'enfant, si l'on en croit le juge d'instruction suisse Émile Birschler, en février 2003.
D'abord, il repérait les lieux, puis il entrait dans le musée, il sélectionnait l'objet qui l'intéressait, et lorsque personne ne le regardait, il s'en emparait, il le cachait sous sa veste, et puis il sortait, comme si de rien n'était.
Au fil des vols, Bredwieser redouble d'audace, évitant toutefois les tableaux de grands maîtres, trop risqués. Mais le jour de son 24e anniversaire, le 1er octobre 1995, il craque. Au château de Baden-Baden, il dérobe un petit portrait de la princesse de Clèves, signé Lucas Cranach, le jeune, l'un des plus grands peintres allemands de la Renaissance, carrément. Et viendront d'autres maîtres, Bruegel, rendez-vous compte, Bruegel. Mais aussi Boucher, Watteau, Dürer, on ne se refuse rien. Pour chaque œuvre, Breitwieser rédige une fiche dans laquelle il recopie des tonnes de notes, discute les attributions ou les datations. 500 livres d'art s'entassent ainsi dans sa chambre. Les murs sont désormais recouverts de chefs-d'œuvre, qu'il fait encadrer à son goût chez un spécialiste de Mulhouse, Christian Mechler. Pour ne pas éveiller les soupçons, Breitwieser lui commande le plus souvent des cadres vides pour des œuvres qu'il dit avoir achetées aux enchères. Et petit à petit, une amitié se noue entre les deux hommes, comme le raconte l'encadreur en février 2003.
Il était relativement régulier, mais il arrivait que 2-3 mois, je ne le voyais pas. Et le fait qu'il avait beaucoup de goût, ça me mettait en confiance et j'appréciais beaucoup. Parce que les gens qui ont une forte sensibilité sont très rares aujourd'hui. Hein. Et c'est un garçon qui avait la faculté de pouvoir contempler. Et ça, c'est rare aujourd'hui, à notre époque, où on est davantage pris dans le matérialisme à outrance.
Printemps 97. Cela fait maintenant 5 ans que Breitwieser et Anne-Catherine sont ensemble, 2 ans qu'ils commettent des vols 3 week-ends sur 4. Mais quel est exactement le rôle d'Anne-Catherine? De ce qu'en dit Breitwieser, il s'apparente à celui d'une assistante. Elle ne vole rien elle-même, mais elle fait le guet. Tous pour avertir d'un danger, distrait les gardiens quand il le faut. Parfois elle est là pour dire non également, c'est que Anne-Catherine a de l'intuition. Comme en ce jour de mai. Le couple visite la ville médiévale de Lucerne, dans les Alpes suisses, et s'arrête dans une galerie. Breitwieser repère une magnifique nature morte. Alors il se tourne vers Anne-Catherine qui lui dit « Non, non, non !» La galerie est toute petite, ils sont les seuls clients. Et pourtant...
J'aurais dû l'écouter, mais cette nature morte semblait si facile à prendre. J'ai emporté le tableau sous mon bras, comme s'il s'agissait d'une vulgaire revue, et je suis sorti. J'ai fait 15 mètres, pas plus. Un homme m'avait vu. Il m'a attrapé par le bras. Au commissariat, les flics étaient un peu désorientés. Ils n'avaient pas l'habitude d'appréhender des voleurs comme nous. Jeunes et bon chic bon genre.
Breitwieser est écope de 8 mois de prison avec sursis et de 3 ans d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Les années suivantes, il se concentre donc sur la France, explore d'autres contrées également, une 20aine de vols en Belgique, une 10aine en Allemagne, quelques-uns aux Pays-Bas, en Autriche et au Danemark. Alors bien sûr, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels s'alarme de ces cambriolages en série. Il soupçonne la mafia italienne ou un cartel russe peut-être. On sait que le trafic d'objets d'art est plutôt l'apanage de réseaux internationaux, rarement l'œuvre d'un loup solitaire armé tout juste d'un couteau suisse. D'ailleurs, Breitwieser ne ressemble en rien à la figure classique des pilleurs de musées. Et pour cette raison majeure, en 7 ans, il n'a jamais revendu la moindre pièce. Ce qui le rend encore plus difficile à appréhender, car c'est généralement au moment où les œuvres circulent qu'on parvient à les retrouver. Mais l'erreur de notre Arsène Lupin des musées s'inscrira ailleurs. Au cœur d'une maxime maintes fois vérifiée, on ne revient pas sur les lieux de son crime.
Quand t'es la les éboires y mangeaient pour l'hirondelle des faubourgs. J'ai fréquenté la santé, je n'en ai rien gardé. J'ai fréquenté la gaieté tout un mois de janvier, nuit et jour il neigeait autour. J'ai fréquenté la beauté sur la baie à l'enchaînement des toujours. Au luxe qui garde le corps sans regret, sans remords, sous la cascade qu'elle adore. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'ai rien gardé de l'hirondelle du faubourg. J'ai fréquenté la gaieté, je n'en ai rien gardé.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Stéphane Bretwieser, le pilleur de musée.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
À l'automne 2000, Bretwieser décroche un boulot de serveur à Bâle et devient ce qu'on appelle un travailleur frontalier. Ses 3 années d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse sont révolues. Mais pour le reste, rien n'a changé, ou presque. Il visite désormais les musées en solo, avant ou après le boulot. Le problème, c'est que sans Anne-Catherine, Bretwieser est incontrôlable. En février 2001, au château de Gruyère, il s'empare d'une immense tapisserie du 17e, 3 mètres et demi sur 3, accrochée par un simple velcro. Il la tire, la roule, puis la jette par la fenêtre. Un autre jour, dans la chapelle d'un village alsacien, il déboulonne une statue de la Vierge en bois, 1 m30 de haut, 70 kg. Bretwieser est une sorte de déménageur spécialisé musée. Mais à force d'accumuler, chez lui, dans sa chambre, il n'y a plus de place, ni pour la Vierge, ni pour la tapisserie qu'il fourre sous son lit. Son musée idéal est devenu Capharnaüm. Il y a des œuvres et des objets d'art partout, entassés sur le plancher, en équilibre sur la table de nuit, la commode, le rebord de la fenêtre. Pourtant, Bretwieser n'en a jamais assez, comme il le dit lui-même aux caméras de France 3 en 2006.
Un collectionneur, c'est... il collectionne, il veut un objet d'art, et une fois qu'il l'a, bon, bah, pendant quelques jours, c'est l'euphorie, c'est le bonheur. Et puis d'un seul coup, bah, il veut autre chose, ainsi de suite. Donc j'ai toujours voulu plus. Et puis ça s'arrête, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était une drogue, oui.
Ah oui, une drogue. Et jusqu'à l'overdose, qui marquera la fin de sa folle aventure. Le 18 novembre 2001. Bretwieser retourne seul à Lucerne, en Suisse, là où, avec Anne-Catherine, ils ont été arrêtés 4 ans plus tôt. Au musée Richard Wagner, il dérobe un corps de chasse du XVIe siècle d'une grande valeur matérielle et historique. Comme à son habitude, Bretwieser ne met pas de gants. Mais cette fois, Anne-Catherine s'en inquiète. 2 jours plus tard, ils décident tous les deux de retourner au musée. C'est elle qui tentera d'effacer des empreintes, dans l'hypothèse où il aurait été repéré. Pendant ce temps, Bretwieser fait les 100 pas dans le jardin du musée. Ce qui attire l'attention d'un promeneur, qui témoigne en 2003.
Il marchait de long en large sur la berge sans jamais monter au musée. Il avait un petit carnet dans lequel il prenait des notes. Je me suis dit qu'il ne ressemblait ni à un touriste ni à un promeneur de chien. Alors je suis allé voir la conservatrice du musée. Et je lui ai dit, regarde voir cet homme, est-ce que tu le connais? Elle m'a répondu, mais c'est exactement le même homme qui était là il y a 2 jours.
Quelques minutes plus tard, Stéphane Bretwieser est arrêté. Il croise une dernière fois le regard d'Anne-Catherine, sortie en trombe du musée. Par chance, les policiers ne la remarquent pas. Rapidement, Bretwieser avoue tout et jure, sur la Bible, n'avoir jamais rien volé d'autre que ce corps de chasse. Il se trouve désormais, dit-il, dans la cave de sa mère. Il lui écrit à plusieurs reprises pour qu'elle le restitue. En vain. Une commission rogatoire internationale est alors lancée. Le 12 décembre 2001, des enquêteurs suisses débarquent à Eschenswiller, au domicile familial. La mère, Mireille Stengel, 51 ans, les accueille froidement et déclare « Mon fils n'a jamais reporté d'objets à la maison. » Bref, circule. Ce qui n'empêche pas évidemment les policiers de monter à l'étage. Or, il n'y a rien. Non. Ni corps de chasse, ni statues, ni tableaux. Seulement les murs blancs et un lit à baldaquin. Les enquêteurs repartent bredouillant en Suisse. Et quelques semaines plus tard, ils apprennent l'incroyable découverte d'un trésor dans un canal alsacien. Confronté, Brett Wieser reconnaît une partie de son butin. Mais que s'est-il passé? Comment sa précieuse collection a-t-elle fini au fond de l'eau? La réponse est donnée par Mireille, 6 mois plus tard, alors qu'elle est placée en garde à vue. Tout commence lorsque Anne-Catherine, rentrée seule du musée Wagner, l'informe de l'arrestation de son fils. Alors, pour la première fois depuis des années, dit Mireille, elle grimpe l'escalier qui mène au premier étage. Brett Wieser lui interdisait l'accès de sa chambre, fermée à double tour. Mais ce jour-là, elle n'y tient plus. Elle pénètre dans le sanctuaire de son fils et découvre l'ampleur de son secret, de sa folie. De rage, Mireille décide de tout bazarder, comme le raconte son avocat Raphaël Fréchard au micro de France Culture en 2003.
Alors, le geste qu'elle a commis a consisté, et ça c'est établi, à se débarrasser, à vider la chambre qui représentait visiblement l'antre que Stéphane Brett Wieser voulait se constituer, en ce sens qui, pour lui, c'était son domaine et il en interdisait l'accès à tous. Ce qui pouvait être cassé, elle l'a cassé, elle l'a mis tout bêtement sur son trottoir en attendant le ramassage par les services d'enlèvement des ordures ménagères de sa commune. D'autre part, ce qui ne pouvait pas être donc détruit, eh bien, effectivement, elle s'en est soulagée en vidant son coffre dans le canal, qui se trouvait être à un endroit où précisément elle-même aimait à promener ses chiens.
Et Mireille ne s'arrête pas là. Dans un dernier accès de colère, elle décroche tous les tableaux, une 60aine, dont ceux de Cranach, Bruegel, Watteau, Boucher, et les détruit à coups de marteau et à coups de hache, avant de les jeter dans une benne à ordures. Mais oui. Face aux policiers, elle parle d'une sorte de transe, une crise, qui n'a rien à voir avec un geste d'amour maternel. C'était pas pour sauver son fils qu'elle a tout balancé, non. C'était pour lui faire du mal, le punir de sa passion stupide, et la manière parfois violente dont il l'a rudoyé. Hein, jamais un merci, alors même qu'à 30 ans passés, il est encore logé, blanchi, nourri, un vrai tanguy celui-là. Le 15 mai 2002, Mireille Stengel est mise en examen et écrouée pour recel de vol par habitude. Oui, recel de vol par habitude. Et destruction d'œuvres d'art. Anne-Catherine, elle, est placée sous contrôle judiciaire pour complicité de vol, ce qu'elle nie en bloc. Dans la famille Brett Wieser, la mère, le fils et la petite amie devront attendre encore quelques mois pour s'expliquer. Devant un tribunal français. Avant cela, Stéphane, lui, devra affronter seul la justice suisse. Son procès s'ouvre le 4 février 2003 à Bulle, au cœur de la Gruyère.
En descendant les escaliers après une mauvaise nuit, je suis tombé brutalement de ma planète. Au bout du couloir qui menait à la salle d'audience, j'ai vu les caméras, les flashs qui crépitaient, la foule des journalistes venus de tous les pays. Je ne m'y attendais pas. J'ai été conduit menotte au poignet devant la cour criminelle, l'équivalent de notre cour d'assises. La liste des 69 vols que j'avais reconnu avoir commis en territoire helvétique a commencé à être épluchée. Comme parfois plusieurs pièces avaient été volées en même temps, cette liste énumérait en fait près d'une centaine d'objets. C'était fastidieux.
La culpabilité de Stéphane Brett Wieser ne fait pas débat. Il a signé des dizaines de pages d'aveux circonstanciés. Non, pour son avocat, tout l'enjeu est celui de la peine encourue. Alors, il plaide pour une libération immédiate. Il met en avant des vols à la discrétion raffinée, sans aucune violence. Jamais, il n'était pas un cambrioleur, déclare-t-il à la cour. Il était un gentleman. Pour peu, l'avocat aurait fait entendre à la cour le générique du feuilleton d'Arsène Lupin. Puis, le tribunal appelle à la barre le père de Stéphane, Roland Brett Wieser. Depuis l'arrestation, les deux hommes ont renoué contact. C'est d'ailleurs l'unique soutien de Stéphane en détention. Sa mère et Anne-Catherine ne répondant à aucune de ses lettres. Puis c'est au tour de Brett Wieser, Stéphane, de s'exprimer. La mine des fêtes, il jure que depuis le début, tout cela avait une fin. Dans 10, 15 ou 20 ans, il aurait tout restitué. Ce n'était pas du vol, juste un emprunt. Il finit sa déposition en larmes et demande pardon. Des excuses qu'il réitère au dernier jour de son procès.
J'ai perdu tout ce que j'aimais dans la vie, les arts et ma copine. J'ai mal pour ma mère qui pleure pour moi. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Je regrette tout. Voilà ce qu'a dit Stéphane Bretwieser devant le tribunal pénal de Bulle. Un tribunal qui a donné lecture de son expertise psychiatrique. Intelligent mais immature, asocial, narcissique et dépressif, ce jeune homme présenterait des troubles graves de sa personnalité. Mais l'expert l'a déclaré responsable de ses actes à 90%. Ce soir, le ministère public a dénoncé le musée bien trop privatif du prévenu. Et il réclame 5 ans de réclusion compte tenu du nombre, de la gravité des actes et de leur répétition dans le temps.
Après 3 heures de délibération, Stéphane Bretwieser est condamné à 4 ans de prison ferme et à une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il purge sa peine dans une maison d'arrêt de la campagne suisse en attendant d'être extradé en France. Pour le deuxième volet judiciaire de l'affaire, celui qui concerne l'ensemble des vols commis dans notre pays et en Europe. Ce procès s'ouvre 2 ans plus tard, le 6 janvier 2005, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg. Dans le box des accusés, Stéphane Bretwieser est désormais accompagné de sa mère, Mireille, et de son ancienne petite amie Anne-Catherine, dont les rôles restent indéterminés. Mireille Stangl est la première à témoigner. Elle a 54 ans et depuis l'arrestation de son fils, elle a tout perdu, son emploi et son pavillon. Désespérée, elle peine à tenir une ligne cohérente. Lors de son interrogatoire en 2002, elle reconnaissait avoir détruit toute la collection de son fils. Et bien à présent, face à la cour, elle déclare n'avoir jamais vu aucune œuvre d'art chez elle. Et puis, quelques minutes plus tard, elle peste contre, je cite, « toutes ces vieilleries-là qui traînaient partout ». Avant de se rasseoir, elle exprime une dernière chose, pour le coup, très clairement, « je hais mon fils ». C'est maintenant au tour d'Anne-Catherine de s'avancer à la barre. Elle décline son identité et déclare être la maman d'un enfant de 19 mois. Bretwieser se fige, paralysé. Malgré l'évidence, il ne pouvait s'empêcher d'espérer la retrouver. Et il n'est pas au bout de ses peines. Anne-Catherine persiste dans son déni total et charge son ancien compagnon. « Il me faisait peur », dit-elle. Pour son avocat, Eric Braun, elle était une femme sous emprise.
On a des procédures qui font état de la violence de ce garçon. On a une psychologie de femme battue qui retourne avec son compagnon parce que quelquefois c'est un moindre mal lorsque celui-ci vient vous chercher en défonçant la porte de ses parents, par exemple.
Le 7 janvier, après 2 jours de procès, Anne-Catherine est condamnée à 6 mois ferme, mais elle ne passera au final qu'une seule nuit en prison. Mireille Stangl, elle, est condamnée à 3 ans, dont 18 mois avec sursis, à peine moins que son fils, 3 ans de prison, dont 10 avec sursis. La suite ne ressemble plus du tout à Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Libéré pour bonne conduite en juillet 2005, Bretwieser est arrêté un an plus tard pour un vol d'habits dans un magasin d'Orly. Il commençait à peine sa grande tournée médiatique par l'apparition de ses confessions, dont vous avez entendu plusieurs extraits au cours de ce récit. Les répercussions judiciaires sont mineures, mais le lancement du livre est fichu. 3 ans plus tard, il dérobe en Belgique une huile sur cuivre du XVIIe siècle, estimée à 50 millions d'euros. Dénoncé par sa nouvelle petite amie, Bretwieser retourne en prison. En ressort, avant la rechute. À partir de 2017, en effet, il ne fait même plus semblant de se retenir et repart pour une journée des petits musées d'Alsace. Il vole quelques pièces romaines, des bijoux d'or et de nacre qu'il revend sur eBay, où il se fait rapidement prendre. En mars 2023, lors de son dernier procès, il est condamné à 2 ans et demi de prison. À se demander si le gentleman cambrioleur n'était pas en réalité qu'un esthète kleptomane particulièrement doué et surtout totalement addict, le vol comme art de vivre.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Stéphane Bretwieser, le pilleur de musée. On en parle avec notre invité Vincent Noce. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Journaliste et critique d'art, vous êtes l'auteur du livre intitulé « La collection égoïste, la folle aventure d'un voleur d'art en série et autres histoires édifiantes », livre publié en 2005, c'est Jean-Claude Lattès. Alors vous avez assisté en tant que journaliste pour Libération au procès de Stéphane Bredwieser, aux deux procès, en Suisse et en France. Quel souvenir avez-vous gardé de l'homme, de son caractère, de son comportement? Bref, quelle impression vous a-t-il laissé?
J'ai assisté au procès et aussi je l'ai rencontré quand il était en détention. Et nous avons échangé une correspondance assez nourrie pendant quelques mois. C'était un garçon qui était très immature, comme l'a souligné l'expert psychiatre suisse. Pendant le procès, il a passé son temps à pleurer, même je dirais à pleurnicher, en se lamentant de son sort, comme un petit garçon pris en faute. C'était assez frappant comme image. Et on avait de la peine pour lui, d'ailleurs, d'une certaine façon. Voilà. Et donc, c'est un peu le sentiment qu'il essaye de soulever dans ses souvenirs. Et il laisse entendre qu'au fond, il aurait été pris par l'amour de l'art, entraîné par sa passion, et que tout ça l'aurait dépassé, un peu comme s'il avait été victime du syndrome de Stendhal, oui, qui disait pouvoir s'évanouir devant une œuvre tellement elle est sublime.
Est-ce que ces motivations ont paru crédibles, ou est-ce qu'on a essayé de chercher d'autres mobiles, d'autres explications à ce comportement quand même irrationnel?
Alors, il a une force de conviction. Fondamentalement, pour moi, c'est un maniaque. Et comme tous les pervers narcissiques et les maniaques, il est fascinant, c'est une personnalité fascinante. Mais en même temps, il y a fondamentalement chez lui un côté voyou, truand, qu'il a assez habilement gommé pendant les procès, ce que lui a valu une peine plus réduite peut-être que ce qu'il risquait d'avoir. C'est quand même quelqu'un qui il prétend qu'il n'avait jamais rien vendu. Or, on a quand même trouvé énormément d'argent sur ses comptes. Il a voyagé partout et il cumulait les petits jobs. Il avait été chauffeur-livreur, à un moment donné serveur. On comprend pas très bien. Il y a quand même une vingtaine des plus belles pièces d'orfèvrerie qui ont disparu, qui n'ont jamais été retrouvées. Donc, il y a toujours eu un doute de ce côté-là. Et il est bon, il prétend qu'il avait un très grand respect des œuvres d'art. Mais par exemple, la statue de la Vierge à l'enfant que vous décriviez.
En bois,
oui. Qui était en bois, qui avait gardé la peinture du Moyen-Âge. Il a enlevé la peinture du Moyen-Âge.
Ah oui, comment un amateur d'art peut-il faire ça, quoi? Il y a un problème.
Oui, il a un couteau. Il avait volé une dague médiévale. Et quand il a essayé de le nettoyer, il s'est coupé avec. Et il l'a jeté dans une décharge. À ce moment-là, il le ramène pas au musée, hein. Il le renvoie pas au musée, ou il l'abandonne pas quelque part où on pourrait le trouver. Il le jette dans une décharge. Donc, si vous voulez, chez lui, ce qui est très fort, c'est la volonté de possession.
Oui, mais il y a quand même une certaine forme de barbarie, entre guillemets, dans cette famille, parce que la mère, elle jette tout. Enfin, c'est incroyable.
Alors, voilà. Et la mère jette tout, là aussi. Les motivations sont assez troubles. L'une des raisons, probablement, c'est qu'elle voulait se protéger, elle. Parce qu'il est à peu près certain, il est même acquis, qu'elle était au courant. Même si, dans le jugement, le tribunal a été un peu plus clément. Mais d'abord, elle avait assisté à des vols. Il a été prouvé et accepté par tout le monde que quand il a volé chez Sotheby's à Baden-Baden un petit portrait, elle était là, elle l'a vu faire. Donc, il y avait des statues dans le jardin, il y avait des sculptures dans le salon, donc de sa maison. Donc,
ça s'appelle une complicité, c'est un passif, mais une complicité.
Oui, mais bon, la justice n'a pas voulu le retenir. Bon, ouais. Elle est restée à ce qui était, disons, le minimal. Mais voilà, cette personnalité aussi glaciale. qui était assez terrifiante, qui avait maintenu son enfant sous sa coupe, son père l'ayant abandonné, entre guillemets, disons, en tout cas quitté pendant plusieurs années. C'est un enfant qui a certainement beaucoup souffert, et qui a souffert de ses propres échecs, parce qu'il n'a pas fait d'études, il n'a pas eu vraiment de travail, il n'a pas eu de reconnaissance, et ce qu'il cherchait, de façon éperdue, c'était la reconnaissance. Mais il en a aussi tiré profit de manière extrêmement égoïste. Si vous voulez, pour revenir sur l'aspect truand, c'est quand même quelqu'un qui a écrit au directeur de banque, quand ses fonds ont été saisis, qu'il allait, quand il sortait de prison, le démolir. C'est quelqu'un qui s'est accoquiné, ou qui a essayé de s'accoquiner avec des truands russes et yougoslaves dans la prison, en leur disant, voilà, ça a été prouvé par des procès-verbaux, hein, n'est-ce pas, et je vais essayer de m'évader, vous allez m'aider à m'évader, et moi je volerai des tableaux pour vous. C'est quelqu'un qui m'a écrit à moi, en disant, moi je connais des truands russes, tu vas voir ce qui se passe si tu publies ton livre.
Oui, il a un rapport assez conflictuel avec la loi quand même, hein.
Oui, et avec l'autorité, en général, qui ne le reconnaît pas, parce que lui, il s'estime au-dessus de cela. Il m'a dit un jour quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, ses œuvres ont besoin de moi, elles m'appellent.
Ouais.
Donc c'est pas lui qui veut les prendre, c'est elles qui veulent le prendre parce qu'il est au-dessus des autres.
Ah, voyons.
C'est ça qui est fondamental dans son caractère.
France Inter. Sensible.
Vincent Deloche, j'aurais tiré quelque chose au clair. Dans le livre « Le voleur d'art » de Michael Finkel, publié aux éditions Marchielli en 2024, l'auteur évoque votre propre livre et écrit « Bretwieser est tellement contrarié par les propos de Vincent Deloche, donc c'est vous, qu'il lui envoie une lettre dans laquelle il le menace physiquement. » C'est quoi cette histoire ?
Oui, c'est ce que je vous disais. Il a d'abord été très attiré par moi. D'abord parce que j'étais critique d'art. Donc ça le fascinait. Mmh. Et donc, on a échangé, en parlant d'ailleurs de l'art aussi, hein, parce qu'il a une certaine connaissance, un goût aussi pour l'art, qui n'est pas à contester. Et j'ai été le seul journaliste avec lequel il a accepté comme ça un échange continu pendant plusieurs mois, sinon années. Et puis, quand il s'est rendu compte que j'abordais d'autres problèmes, d'autres possibilités, que je rencontrais son ancienne petite amie, ou sa mère, ou son père, que j'essayais de dénicher la vérité, alors là, ça allait commencer à lui déplaire foncièrement. Et après, donc, il s'est complètement retourné contre moi. Et effectivement, il a laissé entendre qu'il allait utiliser des truands avec lesquels il s'était lié d'amitié dans la prison pour me menacer. Bon, cela dit, ça va avec son caractère immature et mythomane aussi. Et donc, moi, je dois dire que je n'ai pas prêté beaucoup d'attention. Ça n'a pas changé le cours de la rédaction du livre, ni de ma vie, je peux vous dire.
Alors, on a parlé de lui, on a parlé de sa mère, Mireille, on n'a pas parlé encore d'Anne-Catherine. Parce que là, quand même, ça ressemble quand même à de la complicité pure et simple.
Alors là, là aussi, c'est pareil. Le tribunal a choisi le minimum. Le minimum, c'est qu'elle avait aussi transporté des œuvres d'art volées et qu'elle les avait éventuellement gardées. Le tribunal s'en est tenu à cela. Il n'a pas condamné pour complicité. Anne-Catherine, c'est un personnage ambivalent, mais plus facilement compréhensible quand même, qui à la fois est fascinée par son petit ami et qui joue Bonnie and Clyde, hein, qui l'aide,
oui, c'est ça.
Mais aussi, à un moment donné, plus réaliste que lui, et qui lui dit, mais arrête, oh là là, on va se faire prendre. C'est pas parce que, par bonté d'âme, hein, c'est parce qu'elle a peur pour elle-même. De même que quand la mère détruit les œuvres, c'est pour se protéger elle-même.
Oui.
Parce qu'elle a un emploi de chef infirmière en Suisse qui est bien payé, et elle a peur du scandale, elle a peur d'aller en prison, et donc c'est aussi pour se protéger que la mère détruit les œuvres. Hein. Mmh. Et donc tout ce côté un peu plus voyou, disons, c'est pareil, le tribunal, les tribunaux l'ont un peu gommé. Après tout, pourquoi pas, c'est maintenant les faits sont passés. Mais elle est aussi sous sa coupe. Il est effectivement assez violent. Il est très possessif. Il ne supporte pas qu'elle le quitte. Donc, elle a aussi un peu peur de lui. Donc, vous voyez, le curseur, il est entre les deux. Elle est sans doute entre les deux.
Hein. Oui, bien sûr.
Et un peu des deux. Voilà. Mais ça, c'est assez classique hein, dans ce genre de couple.
Existe-t-il des soupçons d'un trésor caché ? Je veux dire, des œuvres volées manquent-elles encore à l'appel ? Ou vraiment, on a tout retrouvé ?
Alors non, il manque encore peut-être une vingtaine ou une trentaine d'œuvres qui n'ont jamais été retrouvées. Je ne parle même pas des peintures qui ont été détruites. Hein. Mais je pense que soit elles ont été vendues et elles ont disparu dans la nature, ce qui est possible, soit elles ont été détruites aussi ou ramassées par un promeneur si elles étaient jetées dans la forêt, comme c'est arrivé pour certaines d'entre elles. Vous voyez, par exemple, on a retrouvé une petite peinture de Bruegel sur cuivre que quelqu'un avait ramassée dans la forêt et avait mis dans son poulailler comme le coin d'une cage à poules. Bon, donc, ou à lapin, je me souviens plus, mais bon. Et donc, vous voyez, lui, il était pour rien. Et c'est seulement par hasard qu'on l'a redécouvert, qu'on a dû la restaurer, la nettoyer, etc. Mais vous voyez, il y a une partie de ses œuvres qui ont disparu. Et ça, lui, ça l'atteint pas, quoi. Ça va avec son mental. C'est qu'il faut essayer de démystifier dans cette affaire, comme dans d'autres affaires.
Oui.
Et les médias, là, pour moi, jouent un rôle un peu coupable. C'est le mythe d'Arsène Lupin.
Oui. Ah bon, on l'a dit aussi, oui. Bon, j'ai compris.
Grand esthète.
Ouais. Mais c'est pas ça.
Très, très intelligent, qui fait de mal à personne et qui, au fond, est un grand amateur d'art.
Et ben c'est pas vrai.
Comme c'est dit dans ce livre, qui se termine très mal d'ailleurs, ce livre que vous avez cité.
Bien. On va conclure, Vincent Noss. Merci. Effectivement, c'est pas un Arsène Lupin parce qu'il fait beaucoup de mal à l'art. Merci infiniment pour toutes vos précisions, Vincent Noss. Au revoir. Et puis on me dit que, contrairement à ce que j'ai dit, le gruyère n'a pas de trous en Suisse. Le gruyère a des trous en France. Voilà. Mais être trahi par un fromage en direct, c'est quand même rageant. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, l'Arsène Lupin. Non, pas l'Arsène Lupin des musées, justement, le pilleur des musées. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.